RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Au Sénégal, 5 anciens ministres de Macky Sall visés par la justice dans l'affaire de la gestion du fonds Covid-19. Son absence prolongée fait polémique au Nigeria pour la 8e fois depuis son investiture. Le président nigérian Ola Tinubu est de nouveau en France pour suivre des soins médicaux. Quelle politique américaine en Afrique centrale? Nous reviendrons sur le bilan de la tournée dans la région des Grands Lacs de Massad Boulos, le conseiller du président américain Donald Trump. La RDC endeuillée par un nouvel accident sur le fleuve Congo, l'incendie d'une baleinière mardi dans la province de l'Équateur a fait plus de 140 morts et des dizaines de disparus selon la société civile. Nous irons au Tchad où le gouvernement a été obligé d'intervenir pour mettre fin à des rumeurs de vol de sexe sur fond de magie noire, une affaire qui crée la psychose dans plusieurs villes du pays. Vers un retour de l'excision en Gambie, c'est le dossier d'Afrique Soir avec notre invité Mam Sira Konaté du collectif des africaines contre l'excision et les violences liées aux traditions. Enfin, musique, nous retrouverons Hervé Mandina, alias DJ Facemaker pour l'Afro Club. Au Sénégal, le procureur général près de la cour d'appel de Dakar, Baké Fall, annonce que 5 anciens ministres de Macky Sall pourraient être poursuivis par la justice dans l'affaire du fonds de Covid-19, un fonds de riposte qui avait été créé pendant la pandémie, doté de 700 milliards de francs CFA et dont la gestion avait été épinglée fin 2022 par la Cour des comptes. À Dakar, Léa-Lisa Westerhoff.
De graves présomptions de prévarication, comprenées de détournement de deniers publics, pèsent sur ces 5 anciens ministres, a affirmé le procureur de la République près de la cour d'appel de Dakar. Sans vouloir révéler l'identité de ses hauts responsables, Baké Fall a expliqué avoir transmis leur dossier à l'Assemblée nationale pour qu'elle décide de leur poursuite ou non devant la Haute Cour de justice.
C'est une procédure vraiment qui est exceptionnelle, c'est la Haute Cour de justice. Tous les ministres qui ont agi et commis dans l'exercice de leurs fonctions des infractions sont justiciables de cette haute cour de justice.
En dehors de ces 5 anciens ministres, 27 personnes ont été inculpées depuis le début de la semaine pour des malversations présumées dans l'utilisation des financements spéciaux dédiés à la riposte contre le coronavirus entre 2020 et 2021. Parmi elles, des dizaines de personnalités publiques et de hauts fonctionnaires du secteur de la santé. Et selon le procureur de la République, Ibrahim Ndoye, ces interpellations vont se poursuivre.
Les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, toutes les personnalités, à quel niveau qu'elles se situent ces personnalités, pour pouvoir les installer et espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais.
En décembre 2022, la Cour des comptes avait relevé de nombreux cas de surfacturation, comme ceux de gel hydroalcoolique ou encore du riz, acheté 2,7 milliards de francs CFA plus cher, un riz distribué aux plus démunis pendant le confinement. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Bénin, de bonne source, RFI a appris que 2 positions de l'armée béninoise ont été attaquées simultanément ce jeudi en fin de matinée dans le parc W près des chutes de Koudou. On ignore encore les circonstances de cette attaque et son bilan humain. Des sources bien informées affirment que des soldats béninois ont perdu la vie. L'armée béninoise et les autorités n'ont pas communiqué sur cette affaire. L'Algérie et la Mauritanie renforcent leur coopération dans le domaine de la défense. Le ministre mauritanien de la Défense, Adana Ould Sidi, a entamé mardi une visite officielle de 4 jours en Algérie. Il est accompagné d'une délégation militaire de haut rang, selon l'agence mauritanienne d'information. Et 2 accords ont été signés dans le domaine de la défense et de la protection des informations classifiées. Le Nigeria, l'opposition s'insurge contre l'absence prolongée du président Bola Tinubu qui se trouve en France depuis le 2 avril. Il s'agit de son 8e voyage dans le pays depuis qu'il a été investi à la tête du pays, de son pays en juin 2023. Le chef de l'État nigérian avait d'ailleurs passé plus d'un mois en France juste avant de prêter serment et de prendre les rênes du pouvoir. Et pour les principaux leaders de l'opposition, Bola Tinubu ne devrait ni s'absenter aussi souvent ni aussi longtemps vu la situation de son pays. Lisa Fabian.
Bola Tinubu a passé au moins 2 mois en France depuis son investiture, selon les décomptes de la presse nigériane. Hormis une visite d'État à l'invitation d'Emmanuel Macron en novembre dernier, il s'agit généralement de visites privées ou de visites de travail, sans que l'on en sache beaucoup plus sur le programme exact du président nigérian. Son séjour actuel a été décrit comme une retraite qui lui permettrait de faire un bilan de mi-mandat. Cette fois encore, la présidence a dû démentir les rumeurs persistantes selon lesquels Bola Tinubu se rend à Paris pour voir ses médecins. Pour le chef du Parti démocratique populaire, ce voyage sonne en tout cas comme une insulte au moment où le Nigeria est à feu et à sang, selon ses termes. Atiku Abubakar pointe le manque d'empathie du président face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le centre du pays, particulièrement dans les états de Benoué et Plateau, où plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort dans des heurts intercommunautaires ces 2 dernières semaines. Même sentiment du côté de Peter Obi, le leader du parti travailliste nigérian, qui évoque une nation en détresse que Bola Tinubu n'aurait pas dû quitter.
En Côte d'Ivoire, le PDCI a désigné Tidjane Thiam candidat à la présidentielle du 25 octobre. Le leader de ce parti d'opposition a obtenu 99,50% des voix, selon les résultats provisoires proclamés ce soir par son parti, qui estime qu'il s'agit d'un plébiscite prouvant qu'il n'y a pas de division au sein du PDCI. Quelle est la position de l'administration Trump sur le conflit entre la RDC et le Rwanda? Ce jeudi, Massad Boulos, nouveau conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump, a fait le bilan devant la presse de sa récente tournée dans la région des Grands Lacs, tournée qu'il a conduit en RDC, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. Il prône le retrait du Rwanda de l'Est de la RDC, mais aussi un accord sur des investissements américains dans le secteur des mines. Patient Ligodi.
C'est un ton ferme qu'a adopté Massad Boulos. Lors de ce point de presse, il a clairement appelé le Rwanda à cesser tout soutien militaire au M23 et à retirer toutes les troupes rwandaises du territoire de la RDC. Il dit croire à une solution rapide. Pour Washington, la priorité est double. Contribuer à la paix dans l'Est de la RDC et élargir la présence du secteur privé américain en Afrique. Corina Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe, parle, elle, d'une tournée productive. Nous voulions donner un nouvel élan au processus de paix, mais aussi ouvrir des portes aux investissements américains dans la région de Grand Lac. Et ces ambitions prennent une forme concrète. À Kinshasa, un accord mini est en négociation avec les autorités congolaises. Objectif, attirer les entreprises américaines, qualifiées par Boulos de citoyennes, respectueuses des lois sociales, environnementales et fiscales. Les États-Unis veulent aussi accompagner le développement d'infrastructures en RDC, barrages hydroélectriques, axes ferroviaires, transparence dans la gouvernance et ainsi les corridors de l'Obito est vu par les Américains comme une priorité. Enfin, un message politique, selon Boulos, le temps révélera quels sont les véritables partenaires de la RDC alors que le pays multiplie les sollicitations étrangères.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h38 en temps universel.
N'Djamena, 100.2 FM.
Au Tchad, le gouvernement obligé d'intervenir pour mettre fin à des rumeurs sur de prétendus vols de sexe masculin par des actes liés à la magie noire ou autres sciences occultes. Des rumeurs qui ont provoqué la panique dans les grandes villes du pays. Le ministre de la Sécurité publique et celui de la communication et le porte-parole du gouvernement ont tenté de rassurer Ezra Zikoumana.
Le phénomène a pris une telle ampleur qu'il y a à peine 3 jours, quelqu'un pointe un homme en plein N'Djamena et l'accuse d'avoir volé à l'instant le sexe de 3 jeunes garçons à qui il vient de serrer la main. Sans réfléchir, la foule se jette sur le malheureux et se met à le rouer de coups. Ces 2 personnes qui ont participé à la curée n'ont pas eu peur de témoigner à visage découvert à la télé privée Tchad Info, sûrs à 100% d'avoir raison.
Il a commencé à nuire en disant que c'est pas lui qui l'a enlevé. Et c'est lui qui a enchaîné les enfants là directement. Et après ça, les enfants n'ont pas le sexe. On a commencé à le tabasser pour ramener le sexe des enfants là. Mais il a nié. Après ça, la police qui est venue le chercher.
Hier même, c'était passé à Dembe. Ils ont enlevé pour un gars. On l'a frappé pour qu'il ramène même. Il n'a pas ramené. Il dit qu'il ne peut pas ramener.
Hier, le gouvernement tapait du poing sur la table pour tenter de mettre fin à un phénomène qui est en train de gagner tout le pays et qui est porteur de violence. Son porte-parole, Gassim Chérif.
Ce phénomène a causé beaucoup de tort, constitue ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Donc depuis quelques jours, il y a des phénomènes de lynchage, d'attaques physiques sur des personnes, et donc le gouvernement ne peut pas rester sans réagir.
Ce phénomène, qualifié de complètement irrationnel, n'a aucun fondement scientifique ni médical, a dit clairement Gassim Chérif, avant de mettre en garde la population.
Toute personne qui relaye des fausses informations par rapport à ce phénomène, elle sera inquiétée, elle sera arrêtée. toute personne qui s'attaque physiquement à une personne présumée avoir enlevé le sexe de quelqu'un, cette personne elle va être arrêtée systématiquement.
Seul le temps va nous dire si c'est fait entendre ou pas, a réagi un journaliste tchadien.
Et en Gambie, c'est le débat sur l'excision qui ressurgit. Cette fois, c'est la Cour suprême qui va se pencher sur ce dossier. Mardi, la haute juridiction s'est déclarée compétente pour examiner la plainte déposée par des associations religieuses et par un député. Ce même député qui, l'an dernier, s'était vu rejeter sa proposition de loi pour autoriser l'excision. Et même si elle perdure dans le pays, la pratique est officiellement interdite en Gambie depuis 10 ans, Sidi Yansané.
Lorsque l'amendement interdisant l'excision a été voté en 2015, le président gambien d'alors, Yahya Jammeh, justifie cette décision par l'absence de justification religieuse de cette pratique dans l'islam. 11 ans plus tard, le député Almamé Djiba affirme le contraire et dépose une proposition de loi pour lever cette interdiction qui, je cite, « viole les droits des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion ». La proposition fait polémique. Une centaine de femmes et de survivantes, comme se définissent les victimes d'excision, se mobilisent devant l'Assemblée nationale pour protester, soutenue par leurs consoeurs au Sénégal. L'Assemblée finit par rejeter la proposition du député Djiba en juillet dernier. Pas de quoi décourager le parlementaire qui revient à la charge en saisissant cette fois la Cour suprême qui se déclare compétente pour traiter le dossier. En 10 ans, l'interdiction est loin d'avoir éliminé l'excision, même si la pratique diminue. En 2023, l'UNICEF estimait que 73% des Gambiennes étaient excisées.
Et en Gambie ou ailleurs, en Afrique et dans le monde, la tradition et la religion sont souvent mises en avant pour justifier la pratique de l'excision. Ce sont de faux prétextes, selon Mam Sira Konaté, elle est la secrétaire générale du collectif des Africaines contre l'excision et les violences liées aux traditions. Elle répond à Sidi Yansané.
C'est une tradition arabique que la colonisation arabe a ramenée en Afrique. Moi, je demande aux gens qui agitent le drapeau islamique, où ils ont vu dans le Coran, où il est écrit que les femmes musulmanes, que les filles musulmanes doivent être excisées. De un. De deux, qu'ils me disent s'il y a une seule fille du prophète qui a été excisée ou une seule épouse du prophète qui a été excisée. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Il ne faut pas qu'ils prennent leur peur et qu'ils utilisent la religion pour pouvoir exécuter ou appliquer leurs méfaits contre les femmes.
Votre collectif porte un regard panafricain sur l'excision à travers le continent. Vous qui êtes originaire du Sénégal, où certes la pratique est moins ancrée, vous constatez là aussi une forme d'hypocrisie dans les familles.
Lorsque vous dites qu'au Sénégal, la pratique est moins ancrée, mais il faut savoir que c'est encore présent. Ça fait pas 2 mois. Il y a eu le scandale de Seydou, où 16 petites filles ont été excisées. Pour moi, c'est extrêmement grave. Ils le font en 12 sur 100 cas, qui a envie de dire seuls les 10 ou les 5 sont divulgués. Ils le font en cachette. Et c'est d'autant plus grave. Récemment, on m'a raconté une anecdote que le papa et la maman de l'enfant étaient contre l'excision. Ils ne voulaient pas. Et c'est la tante maternelle qui a eu le toupet, excusez-moi du terme, de prendre l'enfant et d'aller l'exciser. Parfois, c'est des parents éloignés qui se disent que ouais, ils n'ont rien compris, ils sont décomplexés, ils sont instrumentalisés par des lobbies. Et ça me fait sourire souvent quand on le dit. Et que oui, c'est nos traditions, c'est pour le bien de l'enfant et ils prennent l'enfant et ils vont exciser l'enfant. Et après, c'est toute la grande famille qui vient, qui va calmer le jeu en disant « Ouais, c'est ton frère, c'est ta sœur, tu ne peux pas l'emprisonner. » Et jusqu'à quand ?
Vous lancez un appel aux hommes pour qu'ils s'impliquent plus dans la lutte contre l'excision, mais cet appel vise surtout les guides religieux. Que leur proposez-vous ?
La solution, ce serait un vrai débat entre les défenseurs des droits des femmes, ceux qui sont contre cette pratique, ceux qui sont pour le droit de l'homme tout simplement, pour le droit de l'intégrité humaine avec ses chefs religieux, ses guides religieux, parce qu'il faut qu'on se regarde en face et qu'on se parle. Il est important que cette personne-là, qu'on puisse aller vers elle et lui parler par rapport à la santé, par rapport à l'intégrité, tout simplement, physique, psychique, morale, par rapport à tout ce que ça impose à la femme, par ricochet.
Mam Sira Konaté, la secrétaire générale du collectif des Africaines contre l'excision et les violences liées aux traditions avec Sidi Yansané. Les sports, le tennis, Abidjan accueille cette semaine le Côte d'Ivoire Open. C'est la première fois qu'une épreuve de ce niveau se tient en Afrique de l'Ouest. 27 nationalités y sont représentées. Mo Lamine Sine Si Savané s'y est rendu.
À l'instar de la figure de proue du tennis ivoirien Eliakim Koulibaly, 22 ans, la soixantaine de joueurs qui participent à Côte d'Ivoire Open sont classés
entre la 190e place mondiale et la 600e. Le vainqueur va engranger 50 points dans le déclassement. Le directeur du tournoi, Arzel Mevelek, explique l'intérêt de ce Côte d'Ivoire Open.
C'est de permettre aux joueurs africains d'avoir de plus en plus de compétitions sur le continent. Donc dans la sous-région, l'idée c'est d'avoir 3, 4, 5 semaines rapidement sur terrain comme ça en dur pour offrir justement une possibilité aux joueurs de se développer près de chez eux.
La Fédération ivoirienne de tennis, hôte de la compétition, a dû mettre à niveau ses installations à la grande satisfaction des promoteurs et des athlètes. Le but in fine est d'hériter des retombées diverses, dont celles sportives. Sylvère Coyot, président de la fédération.
Le fait d'intégrer le concert mondial de tournoi ATP, ça c'est très important. La publicité qui est faite autour participe du rayonnement du sport de la Côte d'Ivoire. Et pour les jeunes, ils prennent maintenant intérêt à ce sport qui était méconnu de certaines couches sociales.
Ce type de tournoi est révélateur de jeunes pépites qui vont éclore avant d'intégrer les plus grands circuits. Et après à la Côte d'Ivoire, les promoteurs veulent en écrire le prochain chapitre au Togo. Moulamine Sissavane, Abidjan, RFI.
Et un deuxième challenger d'Abidjan débutera à partir de lundi, juste après celui qui est en cours. Et on s'envole pour Madagascar, où plus de 90% de la population utilise le charbon de bois comme principale source d'énergie domestique. Mais voilà, ça pollue et c'est une véritable source de déforestation. Alors pour contrer le phénomène, l'ONG suisse ADES a eu l'idée en 2010 de créer un modèle de cuiseur en métal et en argile, plus économe en charbon. Aujourd'hui, ce moyen a fleuri partout sur le territoire, alors que d'autres produits, comme par exemple les cuiseurs solaires, n'ont jamais conquis le cœur des Malgaches. Afrique Eco, c'est à Tuléar, dans le Grand Sud, au siège de l'ONG. C'est là que l'aventure a commencé. Sarah Tétou.
C'est un joyeux vacarme qui règne dans la salle de production des cuiseurs portatifs ADES.
Ça, c'est le seau métallique pour contenir l'argile des foyers améliorés.
Ici, tout est fait à la main, de façon mécanique, pour parer au délestage extrêmement fréquent, explique Alain Wasserfallen, le directeur d'ADES. L'usine de Tuléar est l'un des trois sites de production du pays et alimente l'essentiel de l'île en fatapér amélioré, le nom malgache pour désigner le réchaud. Reconnaissables entre mille grâce à leur couleur verte, ils sont vendus partout, même dans des zones les plus reculées. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, Bruel, chauffeur de taxi à Tuléar, a toujours vécu avec ce foyer amélioré chez lui.
Ça nous aide à moins gaspiller le charbon, quoi. Parce qu'avec le fatapér en fer, on ajoute des combustibles à chaque fois qu'on veut cuire quelque chose. Mais avec le fatapér ADS, l'argile garde la chaleur. Il n'y a pas besoin d'en mettre de combustible à chaque cuisson. Là, ça, c'est 3 fois, 4 fois... plus cher que les fatapér en fer, mais c'est rentable.
Rentable sur la durée parce qu'il nécessite moitié moins de combustible que le fatapér ordinaire pour fonctionner. Et dans une île où les forêts ont diminué de 40% ces 20 dernières années, selon le Global Watch Forest, faire baisser la consommation de charbon est une vraie bataille. Seulement, tous les produits ADES, aussi efficaces soient-ils, n'ont pas obtenu le même succès. À commencer par les cuiseurs solaires, relate Alain Wasserfallen.
C'est des produits très adaptés au climat de Madagascar, mais le faible volume des ventes des cuiseurs solaires par rapport aux foyers améliorés nous montre que ça ne prendra pas sous la forme actuelle. Le fait que, par exemple, si les parents vont les deux travailler au champ, ils ne vont pas emporter un four solaire ou une parabole solaire avec eux, c'est lourd. Donc il faut se remettre en question. Faire de l'aide au développement, ça ne veut pas simplement dire prendre une idée géniale dans un pays développé et essayer de la faire accepter dans un pays en développement. Il faut pouvoir s'adapter aussi aux habitudes locales.
Un défi énorme qui reste encore à relever pour offrir une solution adoptable par tous et qui réduise drastiquement la coupe de bois sur le territoire. Aujourd'hui, on estime qu'un ménage malgache consomme 90 kg de charbon par mois. Sarah Tetto, de retour de Tuléar, RFI.
Et quittons Tuléar à Madagascar pour Abidjan en Côte d'Ivoire. RFI est partenaire des RICA, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. La 7e édition s'est ouverte ce soir. Elle se poursuit ce vendredi avec une troupe burkinabé d'Arfa Cirque qui jouera une pièce évoquant le sort des enfants dans un contexte de guerre et de terrorisme. Frédéric Gara.
Venus de Bobo-Dioulasso, les artistes acrobates de la compagnie d'Afra ont écrit ensemble une pièce intitulée « Souffle ». Souffle, comme celui d'une jeunesse qui, en temps de guerre et sous la menace terroriste, essaye malgré tout d'étudier. Mustapha Konaté, directeur artistique de la compagnie.
à la base, s'est inspiré de la situation précaire des enfants partout dans le monde, mais plus précisément au Burkina, avec les guerres et tout, disons le terrorisme qui frappait les écoles. Il y a des hommes enturbanés qui attaquaient les écoles, qui fermaient les écoles et qui, si les écoles ne sont pas fermées après, quand ils revenaient, ils attaquaient les écoles, ils tiraient à balles réelles sur les classes. Donc nous, on s'est beaucoup inspiré de ça et aussi de la situation des guerres un peu partout en Palestine où les enfants sont bombardés. On s'est inspiré de tout ça pour créer notre spectacle.
Autour d'un banc d'école ou bien dans des mains à main impressionnants, les artistes bobolais interpellent le public d'Abidjan et au-delà, une communauté internationale qui reste bien silencieuse face à la situation au Burkina Faso.
Qui protège ses enfants dans cette situation? Il y a plein de sanctions verbales, mais qui les protège vraiment? Est-ce que les organisations internationales prennent certaines mesures radicales pour protéger les enfants? Et eux, ils n'ont que leur innocence contre cette situation.
Après avoir joué dans différentes écoles d'Abidjan, les Burkinabés de Dafra seront ce vendredi soir à l'Institut français en compagnie de la troupe ivoirienne de Cirque Lumière d'Afrique. Frédéric Gara, Abidjan, RFI.
Si vous êtes à Abidjan, ne ratez pas l'Erika, les rencontres interculturelles du cirque. C'est jusqu'à samedi soir à l'Institut français.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et c'est le retour de l'ambianceur d'Afrique Soir pour son deuxième rendez-vous de la semaine certifié Afroclub. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Bonsoir et comment dire en bon français, welcome back Sylvie.
On va démarrer votre sélection du jour au Ghana avec les artistes Kiddy et Jackie. Ils proposent le morceau Cheat On You.
Kiddy et Jackie qui se retrouvent sur une collaboration pas simple du tout, vous allez voir. Le titre Cheat On You évoque les tribulations d'un couple qui doit faire face à la tentation et à l'infidélité, tout en respectant l'engagement envers l'être aimé. Tout un programme. Kiddy est connu pour ses tubes Touch It et Odo. Jackie, quant à elle, a été révélée au grand public grâce à sa chanson Forever. Le résultat de ce duo est une chanson Afrobeats et R&B qui, depuis sa sortie, a suscité de nombreuses réactions. Les fans ont salué non seulement la performance, mais aussi l'alchimie entre Kiddy et Jackie. On écoute Cheat On You.
I don't wanna cheat on you. Every day temptation, baby, yo, I just wanna kiss on you. I just wanna kiss on you. I don't wanna cheat on you. Every day temptation, baby, yo, I just wanna spend on you. Come here, make a spend on you. Oh no, don't let me cheat on my woman. No, no, I try, you know, say I try. Don't let me cheat on my woman. No, no, I try, yeah.
Voilà un titre qui vaut le détour et qui se laisse écouter sans trop d'efforts. On va passer à présent à la rappeuse gabonaise Sabi. Elle est en duo avec Gigi Fada.
C'est très drôle de vous l'entendre dire. Sabi revient marquer les esprits avec Condamné, sa nouvelle chanson aux allures d'introspection profonde sur les relations humaines. Dit comme ça, cela ne semble pas très engageant, mais Sabi retient l'attention de l'auditeur grâce à la composition du morceau et sa mélodie accrocheuse. Notez que Sabi est une voix émergente de la scène gabonaise. Elle s'est fait connaître du grand public grâce au titre Lewe est sorti en 2022. Avec Gigi Fada, elle a écrit Condamné, une déclaration d'amour et d'impuissance qui se veut universelle. Et Sabi arrive à prouver sa polyvalence et sa volonté à consolider sa place dans le rap gabonais.
Tu sais, j'ai beaucoup de sentiments. C'est qui me scandit parce que tu m'aimes. Tu dis que les galaxies des barrels. Mais j'ai l'impression que c'est le modèle. Tu sais d'abord que je suis mal wisé. Bébé, comme ça, je vais pas trop parler. Tu crois que tu peux me prendre la tête plus un geste. Fuck love, j'ai mis des barrières. Oh my baby, j'ai
Et maintenant, place à la traditionnelle séquence rétro du jeudi dans l'Afro Club. Vous avez choisi, Hervé, une chanson pop-rock emblématique du début des années 2000, Somewhere Only We Know, du groupe britannique Keane.
Oui, on est en 2004, il y a 21 ans déjà, année où les groupes anglo-saxons à succès sont de retour. C'est le cas de Keane, qui a dévoilé le 16 février de cette année-là, la chanson Somewhere Only We Know. Premier single de leur album Hopes and Fears, elle a atteint la 3e place des classements au Royaume-Uni et a marqué le début du succès mondial du groupe. Cette chanson est inspirée par la forêt Monsters Show, située dans le Sussex, où les membres du groupe passaient du temps dans leur enfance. Ce lieu symbolise pour eux un refuge intime et nostalgique, et la chanson évoque un endroit secret et personnel, réel ou symbolique d'ailleurs, que chacun peut interpréter selon ses propres souvenirs et émotions. La chanteuse Lily Allen a repris Somewhere Only We Know en 2013. Sa version a connu un grand succès, atteignant la première place des hit parades britanniques et introduisant ainsi la chanson à une nouvelle génération, renforçant son statut de morceau intemporel et universel. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me.
Et oui, on devrait tous avoir un chez-soi, une planque. Bravo Hervé, grâce à vous, nous aurons le refrain toute la soirée en tête. Et on revient en 2025 pour conclure cette sélection Afro Club avec le rappeur tchadien Maxo Hervé.
Maxo vient bouleverser les cœurs avec Ngojo, sa nouvelle chanson qui raconte l'histoire d'un couple brisé par les déchirures familiales. Ngojo est une production aux sonorités traditionnelles tchadiennes mêlée à des instruments contemporains, créant une ambiance à la fois nostalgique et moderne. La voix de Maxo, chargée d'émotions, guide l'auditeur à travers les méandres de la douleur et de l'espoir. Maxo exprime la capacité de l'être humain à surmonter les épreuves et à retrouver l'espoir malgré les blessures du cœur.
Ira marim tu chitom, mos dom chit biya bal. Jajawo, jatelwo, nui bar chit no kolio. Kasa tolmwo, aajmwo, monsa gonjai tu beborok.
Et c'est avec Maxo que l'Afro Club referme ses portes ce jeudi 17 avril. Une émission que vous, auditeurs, pouvez réécouter sur l'application RFI Pure Radio.
Et je rajoute, Sylvie, qu'on est également disponible sur notre site internet RFI.fr. Ce sera tout pour l'Afro Club cette semaine, mais promis, on revient d'un lundi en vidéo sur RFI Musique et tous les réseaux sociaux de la radio mondiale. Et d'ici là, restez bien à l'écoute de l'ambianceuse de l'information africaine ce soir, j'ai nommé Sylvie Berruet.
Ta voix sur la voie des remparts et parfois la rue.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette dernière édition d'Afrique Soir, très groove. Merci à vous de nous avoir suivis. Bientôt minuit à Libreville. Merci également à toute l'équipe d'Afrique Soir à la réalisation ce soir, Quentin Moulin. J'ai une vie à reprendre.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, questions de parents, le paludisme chez les enfants. Comment protéger les moins de 5 ans, groupe le plus vulnérable à l'infection?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Dans la tradition chrétienne, Jésus, entre sa mort et sa résurrection, est descendu aux enfers. Une étape charnière dont le Nouveau Testament ne dit rien. L'auteur de BD Thierry Robin s'est engouffré dans la brèche. Il raconte ce qui a pu se passer en imaginant dialogues et décors, mais sans trahir les textes canoniques.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, samedi à 18h41 sur RFI.